Cinquième chapitre.
Le chargement par la bouche. La carabine d'Elving.
Malgré sa justesse infiniment supérieure à celle du fusil, la carabine avait été abandonnée principalement pour deux raisons, sa lenteur au chargement quatre fois plus long que le procédé ordinaire, nécessitant l'emploi d'un maillet qui devenait vite un objet encombrant, et l'absence de baïonnette privant le tireur de toute défense lorsqu'il avait fait feu. À la fin de l'Empire, on entreprit une série d'expériences sur une nouvelle carabine, mais cette tentative n'ayant abouti à aucune avancée significative, on abandonna la fabrication des armes rayées à l'arquebuserie de luxe. Pourtant, en 1826, une invention due à Gustave Delvigne devait transformer radicalement le système de chargement à balles forcées. Il imagina un nouveau mode de forcement permettant de charger une arme rayée par la bouche, sans l'emploi du maillet, et aussi rapidement que le fusil ordinaire. La carabine qu'il présenta à l'appui de son système, connue dans l'histoire de l'arquebuserie sous le nom de carabine d'Elvigne, était du calibre de 1,65 cm et portait 12 rayures au pas de 1,84 m. Ce qui la distinguait essentiellement, c'est qu'elle possédait au fond de lame une chambre cylindrique plus étroite que le canon destiné à recevoir la poudre. L'entrée de cette chambre avait été usinée de façon à créer un chanfrein conique de la même forme que la balle. La balle d'un calibre très légèrement inférieur au canon pouvait glisser librement jusqu'au fond du canon et venait prendre appui sur ce chanfrein. Il suffisait ensuite de deux ou trois coups de baguette pour la comprimer fortement et l'engager par un léger écrasement dans les rayures. Cette carabine, éprouvée en 1827 et en 1828, présentait quelques défauts. La commission militaire trouva qu'elle avait trop peu de portée pour être utilement employée à la guerre, qu'elle s'encrassait trop facilement et que l'écrasement de la balle sous le choc de la baguette, dont une partie pénétrait dans la chambre à poudre, avait pour effet de déplacer son centre de gravité, de telle sorte que la justesse du tir s'en trouvait diminuée. Alors que cette ingénieuse invention aurait mérité les encouragements les plus sérieux, la commission militaire donna un avis défavorable lui reprochant d'être moins précise que celle chargée au maillet. Delvigne ne se tint pas pour battu, et poursuivit ses recherches en menant de nombreuses expériences pour déterminer les relations qui devaient exister entre la charge et la longueur du canon, l'inclinaison, la forme, la longueur et la profondeur des rayures, le calibre du projectile, mais surtout en expérimentant de nouveaux projectiles de forme allongée. Sa nouvelle arme, quoique supérieure sur le plan de la justesse et de la portée aux armes en usage dans l'armée, fut une nouvelle fois refusée par les généraux, qui la déclarèrent absurde et inadmissible. Lorsqu'en 1830 arriva l'expédition d'Alger, il saisit avec empressement cette occasion pour faire expérimenter son système. Appuyé par les ducs de Chartres et de Montpensier, il reçut alors l'ordre de se rendre en Afrique où il fut mis à la tête d'un détachement de 100 tireurs d'élite, armés en partie de fusils rayés de son système et bien entendu fabriqués à ses frais. Les résultats furent très satisfaisants, et Delvigne de retour en métropole, demanda au ministre de la guerre que son système soit une nouvelle fois réexaminé, mais il fut repoussé pour la cinquième fois. Comme tous les grands inventeurs, Delvigne fut victime de la jalousie de ceux qui s'imaginent que le titre dont on les a pourvus leur confère le savoir et l'intelligence. Pour affirmer ou conserver leur position dominante, leur arrogance va alors jeter sur l'inventeur un discrédit sans nom fait de mépris, de calomnie, de ridicule ou de mauvaise foi. Les inventeurs et leurs trouvailles sont alors écartés. Tôt ou tard, le temps leur donnera raison, mais ils seront le plus souvent dépouillés de leur géniale idée par des profiteurs ou des opportunistes qui se chargeront de la mettre en valeur et d'en tirer tout le profit quand ils ne se l'attribuent pas. Ainsi, face à l'opposition systématique de la commission de l'armement composée de généraux, le lieutenant Delvigne n'eut d'autre choix que de démissionner en 1831 pour pouvoir se libérer de sa hiérarchie et de sa discipline.
Le système Delvigne-Pontcharrat.
L'obstination de Delvigne lui permit d'entreprendre en 1833 d'autres expériences sous la direction de Pontcharrat, lieutenant-colonel d'artillerie et inspecteur des manufactures d'armes. Les expériences furent conduites avec beaucoup de rigueur et d'habileté et portèrent sur les divers éléments qui entrent dans la composition d'une arme rayée, le mode de forcement, la forme, le poids et le calibre de la balle, la longueur et le calibre du canon, le sens, l'inclinaison, la profondeur et le nombre des rayures. À compter de ces travaux, la forme de la balle allait devenir un critère essentiel dans le perfectionnement des armes, mais devant l'hostilité des généraux à l'égard des balles oblongues, on se préoccupa surtout de perfectionner l'arme première de Delvigne, c'est-à-dire la carabine à balles sphériques. Pontcharrat s'attacha à supprimer le défaut du forçage de la balle du système Delvigne. En effet, lorsqu'on faisait descendre la balle directement sur le ressaut de la chambre et qu'on l'écrasait à coups de baguette, l'écrasement n'était pas bien régulier à la circonférence, le plomb cédant au choc de la baguette pénétrait en outre dans la chambre. Cette déformation de la balle nuisait à la justesse du tir. Ponchara eut l'idée d'adapter à la balle un sabot cylindrique en bois sur lequel le projectile venait se loger. Il était creusé à sa partie supérieure pour recevoir la balle et reposé par une surface plane sur l'épaulement créé par la chambre à poudre dont le chanfrein avait été supprimé. De cette façon, il devenait impossible à la balle de pénétrer dans la chambre à poudre lors de son écrasement, et son étanchéité avec la paroi du canon s'en trouvait améliorée. Ce sabot sera introduit par la suite dans les cartouches entre la poudre et la balle. La somme des améliorations dues à ces travaux, et l'introduction des hausses pour graduer l'élévation de l'arme en fonction de la distance de tir, conduisirent à l'adoption officielle de la carabine dite de Ponchara modèle 1836. On en équipa, en 1838, un bataillon de tirailleurs formé à Vincennes qui fut envoyé en Algérie sous le nom de chasseurs de Vincennes. Cette carabine portait à 300 mètres avec une extrême justesse. Moins lourde que le fusil d'infanterie parce qu'elle était plus courte, elle conservait pourtant assez de longueur pour être munie de la baïonnette. Elle se chargeait facilement, s'encrassait peu et n'avait qu'un assez faible recul.
La carabine tout venin, minier.
Le système d'Elvigne Ponchara avait pour principal inconvénient d'utiliser des cartouches spéciales, qui se détérioraient plus facilement que la cartouche ordinaire, et qui n'étaient pas toujours faciles de se procurer en temps de guerre. Les recherches reprirent pour supprimer de la cartouche le sabot. En 1841, sur la proposition du chef d'escadron Thierry, on entreprit de sérieux essais sur des balles, autres que celles de forme sphérique. Il proposa une balle cylindrique terminée en avant par une demi-sphère. Delvigne, de son côté, proposait des balles ayant la forme d'une moitié d'ellipsoïde allongée avec un court cylindre à la base. L'heureuse idée pour supprimer le sabot fut trouvée par le lieutenant-colonel d'artillerie Touvenin, qui proposa en 1842 une arme qui prit le nom de carabine à tige. Le principe était simple. Au lieu de forcer la balle en l'aplatissant à l'aide d'une baguette, on allait la forcer en l'écartant depuis son centre. Pour cela, Touvenin abandonna le système de la chambre à poudre et le remplaça par une tige en acier vissée dans la culasse de la carabine, dans l'axe même du canon, et sur laquelle une nouvelle balle de forme sphérique venait prendre appui. La poudre occupait l'espace annulaire laissé libre autour de cette tige. On frappait la balle avec une baguette de fer dont le bout était évidé, pour l'écraser sur la tige qui la pénétrait légèrement et la forçait avec beaucoup de régularité. On pouvait désormais renoncer au sabot et faire usage pour cette arme de la cartouche ordinaire, mais la balle sphérique ne répondait pas entièrement au but à atteindre et l'on décida de substituer à cette balle une balle allongée. S'inspirant des différentes études menées par Delvigne sur les balles cylindro-coniques, le capitaine Minier, instructeur à l'école de tir de Vincennes, songea à appliquer ce type de munition à la carabine à tige. Au cours de ses expériences, Minier s'aperçut qu'en faisant varier la forme de la balle, il obtenait des résultats différents. Il entreprit alors une étude très approfondie sur le sujet, et à la suite d'une longue série d'expériences, il fut en mesure d'établir quelques principes mathématiques sur la forme et la longueur des projectiles, afin que la pointe de la balle reste toujours en avant au cours de sa trajectoire. Il mit au point une balle cylindro-ogivale à cannelure qui, après sa déformation résultant du choc de la baguette conservée au tir sa justesse. La mise au point de ce projectile permit d'entrevoir qu'il était désormais possible d'utiliser des balles de forme et de longueur quelconque, sans altérer la précision du tir. Après divers tâtonnements, Minier et Touvenin furent en mesure en 1844 de présenter au gouvernement une carabine à tige munie d'une balle oblongue. Le pas des rayures avait été augmenté ainsi que le poids de la balle, la charge de poudre réduite, la cartouche commode et le chargement facile. La précision et la portée de cette nouvelle arme dépassa de beaucoup tout ce qu'on avait obtenu jusqu'alors des armes de guerre. En poursuivant les études sur des projectiles dont la longueur était supérieure au calibre, le commandant d'artillerie Tamisier constata, comme Delvigne 20 ans plus tôt, qu'il n'était pas nécessaire pour augmenter la portée d'une arme, d'en augmenter le calibre. En allongeant le projectile et donc en augmentant son poids, on obtenait ce résultat, après les correctifs nécessaires effectués à la mécanique de l'arme et au volume de poudre. L'expérience aidant, Tamisier constata également que des cannelures pratiquées à l'arrière de la balle lui permettaient, comme l'empennage d'un trait, de conserver au cours de sa trajectoire la pointe à l'avant. La balle fut adoptée et utilisée dans la carabine à tige. À la fin de 1846, la supériorité de la carabine tout venin minier tamisier ayant été reconnue de tous, elle devint une arme réglementaire sous le nom de carabine modèle de 1846.
Évolution des projectiles.
Le gouvernement se préoccupa alors de transformer le vieux fusil à canon lisse, en usage dans toute l'infanterie française, en fusil rayé à tige, mais Minier proposa un perfectionnement inattendu qui vint tout remettre en question. Reprenant à son compte une idée développée en 1835 par Grenier, un arquebusier anglais, il proposait ni plus ni moins de supprimer la baguette utilisée pour le forcement de la balle en rendant cette action automatique. La balle était forcée non plus par écrasement, mais par un phénomène de dilatation produit par les gaz résultant de l'inflammation de la poudre. Delvigne, qui de son côté continuait ses recherches sur sa balle cylindro-conique, avait également remarqué qu'en pratiquant un évidement dans la partie postérieure de la balle, elle se dilatait sous l'action des gaz de la poudre. Cette découverte avait d'ailleurs fait l'objet d'un brevet d'invention qu'il avait déposé le 22 décembre 1842. Le mérite du capitaine Étienne Minier fut de mettre en pratique dès 1846 cette découverte en perfectionnant d'une manière fort ingénieuse sa balle pour en faire une balle à culot. L'évidement tronc-conique de la balle recevait dans sa partie la plus large une petite coupelle en acier, le culot, également de forme tronc-conique. En raison de sa densité inférieure à celle de la balle, le culot recevait le premier l'impulsion des gaz de la poudre, et par glissement sur les parois intérieures du projectile, exerçait une pression qui le forçait à s'ouvrir, à se dilater et à s'imprimer dans les rayures. Cette trouvaille retint toute l'attention du gouvernement français qui avait mesuré son importance et présentait bien des avantages. Facilité et régularité du chargement, suppression de la tige intérieure et de la baguette de forcement, transformation rapide et économique du fusil lisse en fusil rayé, telles étaient ses qualités les plus saillantes. Après le temps de la recherche, vint le temps de l'expérimentation qui donna lieu à un perfectionnement de la forme de la balle et de son culot. Cependant, malgré l'avantage des armes sans tige tirant la balle à culot, sur les armes à tige tirant la balle oblongue, l'adoption de la balle à culot resta à l'état de projet. Minier proposera d'autres modèles de balles, mais ils seront rejetés jusqu'à la mise au point d'une balle offrant les avantages d'être sans culot, de faible poids, d'une grande portée et d'une grande justesse. Elle sera adoptée pour l'infanterie sous le nom de balle modèle 1857. Cette balle à évidement pyramidal sera remplacée par la balle modèle 1863 qui ne diffère de la précédente que par son évidement quadrangulaire et son poids légèrement supérieur, 36 grammes au lieu de 32 grammes.